Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient dans 30 minutes. Vos témoignages sur les inondations qui touchent l'Afrique de l'Ouest. Les dégâts sont considérables, notamment au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso ou encore au Niger. Dans les capitales, de nombreux quartiers ont les pieds dans l'eau. Le bilan humain est particulièrement lourd. 45 morts au Niger, 6 au Sénégal, 3 au Burkina Faso. Et comme chaque année en cette saison, eh bien la population ne cache pas sa colère, accusons à tort ou à raison les autorités de ne pas anticiper suffisamment la saison des pluies. On a envie de vous entendre, vous qui êtes sur place. Vos témoignages, évidemment, nous intéressent. Parlez-nous déjà de la prise en charge des sinistrés. Ils sont très nombreux, 125 000 rien qu'au Niger. Dites-nous comment votre pays s'organise face à la saison des pluies. On va évidemment parler du manque d'infrastructures, des encombrements des caniveaux, des constructions anarchiques. Vous êtes nombreux à souhaiter témoigner. Vous continuez donc à nous appeler 33 9 693 693 70. Et je vous attends également sur nos réseaux sociaux, la page Facebook RFI, appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions à la rédaction de RFI pour mieux comprendre l'actualité. Des questions d'abord sur l'élection présidentielle en Guinée, élection prévue le 18 octobre. Abdourahman, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes justement en Guinée, vous nous appelez de l'Abbé exactement, nous vous écoutons.
Merci beaucoup. Seluda Alain Diallo décide de se présenter à l'élection présidentielle d'octobre, alors que Sidya Touré, lui, décide de boycotter. Mm-hmm. La question est la suivante. Pourquoi Seluda Alain Diallo décide de se présenter alors qu'il dit que la CENI est inféodée à Alpha Condé et que le fichier électoral est tronqué?
Ouais, bonne question que vous posez. En tout cas, les candidats avaient jusqu'à hier soir minuit pour déposer leur dossier. Bonjour Binta Diagne.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. L'opposition guinéenne qui se fissure face à la candidature d'Alpha Condé à un troisième mandat. Abdourahman le disait à l'instant, il y a ceux qui boycottent pour ne pas cautionner cette élection. C'est le cas de Sidya Touré. Et puis il y a Seluda Alain Diallo, certes chef de file de l'opposition, mais Seluda Alain Diallo qui, finalement, au dernier moment, décide de se lancer dans la course. Comment expliquer cette décision alors que lui-même le disait pas plus tard que dimanche devant son parti, un fichier électoral tronqué, une CENI et une cour constitutionnelle totalement inféodée à Alpha Condé, la tâche sera difficile, a dit l'opposant. Comment expliquer donc qu'il se lance dans la course à la présidentielle?
Ouais, c'est vrai qu'il y a ce scepticisme affiché en public par Seluda Alain Diallo, mais il faut bien comprendre que en même temps, Seluda Alain Diallo affirme être en mesure de pouvoir compiler ses propres résultats. Son parti, l'UFDG, a prévu de se mobiliser le jour du vote pour surveiller le déroulé de l'élection, pour récolter des procès-verbaux. En somme, l'UFDG va faire sa propre centralisation. Cette formation politique espère surtout pouvoir comparer les résultats compilés à ceux de la commission électorale, donc la CENI. Pour le chercheur cabinet Fofana, Seluda Alain Diallo cherche ainsi une légitimité politique et légale afin de contester les élections en cas de défaite. D'où ce discours martial auquel vous faisiez allusion, prononcé dimanche lors du congrès d'investiture de l'UFDG. Et dans cette logique, il faut aussi prendre en compte tout le poids que joue son parti politique, qui se retrouve sans siège à l'Assemblée nationale après avoir boycotté les législatives de mars dernier. Donc, pour de nombreux militants de l'UFDG, il était inconcevable de ne pas participer à la présidentielle. Et puis enfin, il y a un dernier aspect sur lequel Seluda Alain Diallo mise, c'est l'éventuelle pression que pourrait porter la communauté internationale, et notamment la CEDEAO, qui a déjà envoyé une mission technique qui appuie la commission électorale depuis le mois de juillet dans les opérations de révision exceptionnelle des listes d'électeurs. Seluda Alain Diallo espère donc en toute logique que la CEDEAO envoie par la suite aussi des observateurs pour suivre ce scrutin, et ce serait pour lui un gage de crédibilité.
La candidature de Seluda Alain Diallo qui fait polémique et qui ne fait pas l'unanimité. On a eu l'occasion d'en parler ces jours-ci sur l'antenne de RFI avec vous, auditeurs, et on relancera le débat évidemment vendredi dans la libre antenne. Abdourahman, a-t-on répondu à votre question?
Merci beaucoup, Anne Gomez. Merci, Binta.
À Binta Diagne, du Service Afrique de RFI. Bonne journée à tous les deux. 10h15 ici à Paris. D'autres questions au 33 9 693 693 70. Bonjour, Boubacar.
Bonjour, Anne. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Soyez le bienvenu. Nous vous écoutons.
Ok. Juan, le français Alain Coq, gravement malade, a décidé de mettre fin à ses jours. Sa demande au président Macron d'être aidé à mourir lui a été refusée. J'ai entendu qu'en France, la sédation profonde est autorisée, mais pas l'euthanasie.
Mm-hmm.
Sur ça, j'ai quelques questions à vous poser.
D'accord.
La première, quelle est la différence entre ces deux dispositions?
Entre la sédation et l'euthanasie?
Exactement.
Ouais. Bonjour Christine Siberte.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste au service France de RFI. Je rappelle très rapidement l'histoire de cet homme de 57 ans, Boubacar le disait à l'instant, fin juillet, il écrit une lettre au président Macron, car il est atteint d'une maladie dégénérative. Il demande au chef de l'État de bénéficier d'une aide active à mourir. La réponse du chef de l'État a été négative, car la loi française ne l'autorise pas, et donc du coup, face au refus du président Emmanuel Macron, vendredi dernier, Alain Coq a décidé de se laisser mourir. Il a arrêté ses traitements, son alimentation, son hydratation. Et après 3 jours, on va dire, d'agonie, Alain Coq a tout de même accepté d'être transféré à l'hôpital. Il accepte désormais des soins palliatifs. Je comprends la question de Boubacar. Il entend sur RFI qu'en France, on autorise la sédation, mais on interdit l'euthanasie. Quelle différence ?
Alors, d'abord, concernant la sédation, on distingue entre la sédation palliative légère et profonde. En cas de sédation légère, le patient peut sembler dormir, mais il ouvre ses yeux. Il peut même réagir quand on lui parle ou qu'on le touche. En cas de sédation profonde, le patient dort et il ne réagit pas. Mais en tout cas, la sédation palliative a pour seul but de soulager la douleur. Il ne vise pas à accélérer la mort. Il vise à abaisser l'état de conscience du mourant à l'aide de médicaments pour qu'il sente moins la douleur. Et s'il s'avère nécessaire de poursuivre la sédation jusqu'au décès du patient, dans ce cas, on parle donc de sédation palliative profonde. Mmh. Mais encore une fois, ce n'est pas la sédation qui conduit au décès, mais l'évolution naturelle de la maladie. Et l'euthanasie, en revanche, est le fait de provoquer la mort d'un malade, bien sûr, toujours dans le but de soulager ses souffrances. Il y a 2 cas de figure. Dans le cas d'une euthanasie active, c'est le médecin qui fait l'injection létale à la demande du patient. Et dans le cas du suicide assisté, c'est le patient lui-même qui fait cette injection. Le médecin fournit seulement le produit.
Ouais. Donc, en tout cas, pour ce qu'il faut retenir, Boubacar, donc, c'est que la sédation n'a pas pour but, comme le disait Christine à l'instant, de provoquer la mort, hein, mais d'endormir le patient pour qu'il ne souffre pas. C'est d'essayer de le placer dans un état, on va dire, inconscient pour diminuer au maximum la douleur. Vous aviez une autre question, Boubacar?
Ouais, la seconde question est, quelles sont actuellement les modalités de la fin de vie en France?
Alors, les modalités, il y a une loi, évidemment, Christine Siberte, c'est la loi Claeys-Leonetti.
Voilà, c'est ça. Et avant cela, il y avait la loi Leonetti de 2005, donc la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie, qui règle en partie ces questions. Pardon, excusez-moi. Le texte a pour objet d'éviter justement les pratiques d'euthanasie, mais aussi d'empêcher l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire l'obstination dans le traitement des malades en fin de vie. Le patient peut donc demander, dans un cadre défini, l'arrêt d'un traitement médical trop lourd. Donc, un peu plus de 10 ans après, en 2016, donc cette nouvelle loi que vous venez de mentionner, la loi Claeys-Leonetti, accorde de nouveaux droits aux personnes en fin de vie et introduit la notion de sédation profonde et continue, qui est donc maintenant autorisée en France, mais uniquement pour les personnes qui sont quasi sur le point de mourir. Alain Coq avait demandé au président de la République, Emmanuel Macron, d'être placé en sédation profonde et il s'est heurté à refus pour ce motif-là. Techniquement, la situation médicale d'Alain Coq ne correspond pas au cadre strict de la loi.
Oui.
Sa maladie dégénérative entraîne une perturbation de ses artères, dégrade ses organes, mais ne le planche pas dans un état fin de vie.
Oui. C'est-à-dire qu'il est atteint, oui. Et oui, il est atteint d'une maladie incurable, mais non mortelle.
Voilà, c'est oui. ça. Et donc voilà. Et pour revenir rapidement à l'euthanasie ou au suicide assisté, les deux sont interdits en France. Seuls quelques pays dans le monde autorisent aujourd'hui l'euthanasie. Les Pays-Bas, par exemple, la Belgique, le Luxembourg, la Colombie. Dans tous ces pays, l'euthanasie reste très encadrée. Et quant au suicide assisté, il est autorisé en Suisse et dans plusieurs États américains. Et certains patients français choisissent donc de se rendre à l'étranger pour se donner la mort. Alain Coq a confié à RFI qu'il avait souhaité aller en Suisse pour bénéficier du suicide assisté, mais qu'il y a renoncé. L'opération est trop compliquée à mettre en place et elle coûte trop cher, a dit Alain Coq.
Boubacar, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, très bien. Merci, monsieur Juan, et merci à toute l'équipe technique de la radio.
Bonne journée en Guinée. Et on remercie évidemment Christine Siebert du service France de RFI. 33 9 693 693 70. Bonjour Antoine Bondaz.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la politique étrangère et de la sécurité de la Chine. On s'est permis de vous appeler ce matin car on a des questions justement sur l'arsenal nucléaire chinois. Sen Kun, bonjour.
Bonjour Juan.
Bienvenue.
Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons avec Antoine Bondaz.
Merci. Selon un rapport du Pentagone, la Chine chercherait à doubler son arsenal nucléaire d'ici les 10 prochaines années et Pékin nie les faits qui lui sont reprochés. Donc actuellement, quelle est la capacité nucléaire de la Chine? Et la seconde question, pourquoi souhaiterait-elle doubler le nombre de ses ogives?
Oui, c'est le Pentagone qui l'affirme. La Chine veut doubler la taille de son arsenal nucléaire d'ici une décennie. Que sait-on, Antoine Bondaz, de l'arsenal nucléaire chinois?
Alors, merci de cette question. On ne sait pas grand-chose en termes capacitaires, puisque si la Chine est transparente sur sa doctrine nucléaire, sur sa politique nucléaire, elle l'est beaucoup moins sur son arsenal. Alors, il y a des estimations qui sont faites par différents centres de recherche. Le CIPRI, le centre en Suède, estime généralement que l'arsenal nucléaire chinois est un peu au-dessus de 300 têtes, c'est-à-dire un petit peu au-dessus de l'arsenal nucléaire français, qui se placerait l'arsenal nucléaire chinois au troisième rang international, loin derrière la Russie et les États-Unis, qui ont à peu près 20 fois plus de têtes, 20 fois plus d'armes nucléaires que de la Chine.
Oui, on dit que les États-Unis ont 6000 bombes et missiles et la Russie 6500. Ce sont évidemment des estimations. En tout cas, c'est important de le savoir. La Chine se placerait donc en troisième position, troisième place
Exactement.
Des puissances atomiques.
Exactement, la Chine serait désormais en troisième position. Il faut rappeler que ça a été la cinquième puissance à se doter de l'arme nucléaire après un essai en 1964. Aujourd'hui, l'inquiétude, elle ne porte pas seulement sur l'accroissement quantitatif de l'arsenal nucléaire chinois. Et cela fait des années que le Pentagone, en réalité, considère que dans les 10 prochaines années, cet arsenal va doubler. Ce qui est très important du côté chinois, c'est avant tout d'améliorer, de moderniser cet arsenal sur le plan qualitatif, c'est-à-dire d'avoir notamment des missiles à portée intercontinentale qui seraient capables de percer les défenses antimissiles des États-Unis, ou alors de développer une véritable, qu'on appelle une composante océanique, c'est-à-dire disposer de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins capable d'envoyer des armes nucléaires potentiellement sur les États-Unis ou vers d'autres pays. Et c'est cet aspect qualitatif qui est aujourd'hui encore plus important que l'aspect quantitatif. Il faut être clair, aujourd'hui il serait impossible pour la Chine, à court terme, de chercher à ce qu'on appelle la parité nucléaire avec les États-Unis ou la Russie, c'est-à-dire multiplier par 20, par exemple, son arsenal nucléaire. Oui. À court terme, cela est tout simplement impossible de la part de la Chine.
En tout cas, multiplier par 2, c'est déjà en soi un exploit. Si la Chine atteint cet objectif, donc d'ici 2030, 600 bombes nucléaires, quelles pourraient être les conséquences?
Alors, faut être très clair, par rapport aux États-Unis ou par rapport à la Russie, les conséquences seraient limitées. Tant les États-Unis gardent encore aujourd'hui une avance considérable sur l'arsenal nucléaire chinois. Du point de vue chinois, il y a un objectif. La doctrine nucléaire chinoise est ce qu'on appelle une frappe en seconde, c'est-à-dire que la Chine refuse d'utiliser en premier, en tout cas c'est ce qu'elle dit officiellement, l'arme nucléaire. Et l'objectif pour la Chine, c'est donc d'être capable, entre guillemets, d'encaisser une première frappe et d'être capable de répliquer, c'est-à-dire de faire une frappe en seconde. L'objectif pour la Chine, c'est donc d'avoir un arsenal dont la capacité de survie est suffisante tant à travers un aspect quantitatif qu'un aspect qualitatif pour pouvoir dissuader les États-Unis, la Russie ou toute autre puissance nucléaire d'utiliser l'arme contre elle.
Senkun, a-t-on répondu à vos questions? Oui. Êtes-vous satisfait?
Oui, merci beaucoup, Juan, et bonne journée.
Et merci à Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. Il nous reste encore 5 minutes. On a largement le temps de prendre un dernier auditeur dans cette partie des questions pour mieux comprendre l'actualité. Hassan, bonjour.
Bonjour, Juan.
Bonjour, Hassan. Vous êtes à Dakar, au Sénégal. Nous vous écoutons.
Aux États-Unis, Facebook et Twitter assurent avoir déjoué une tentative de manipulation de plusieurs comptes à 2 mois de la présidentielle. Mmh. J'ai 2 questions à ce niveau. Comment Facebook et Twitter déterminent que ce sont des manipulations?
Alors, Hassan, pour vous répondre, nous avons contacté Julien Ossetti, il est chercheur associé à l'Institut français des relations internationales, donc à l'IFRI, il est spécialiste de la Russie. Bonjour Julien Ossetti. Visiblement, si on en croit donc Facebook et Twitter, la Russie tenterait de nouveau d'infiltrer et de s'infiltrer dans la campagne électorale américaine, comme ce fut le cas il y a 4 ans. Facebook et Twitter ont donc fermé des comptes. De quoi parle-t-on exactement? Qu'a fermé concrètement Twitter et Facebook?
Alors, Facebook et Twitter ont fermé toute une série de comptes qui auraient été liés à des tentatives d'intrusion et de désinformation de la part de médias qui auraient été affiliés à la Russie ou à des sous-traitants, là aussi, qui travaillent pour la Russie. Donc ça, c'est à resituer dans une tendance de fond, hein, parce que c'est pas la première fois, loin de là, ces derniers mois, que Facebook et Twitter font de telles annonces. Twitter suspend quasiment 1 million de comptes par jour. Pas tout lié à la Russie, évidemment, mais en partie. Donc ça fait vraiment suite à une série d'annonces de la part de ces deux acteurs. Et ce qui est intéressant dans le contexte actuel de ces derniers jours, c'est que Facebook en particulier a beaucoup travaillé sur sa modération, qui évidemment sans doute n'est plus seulement humaine, hein, qui n'est plus seulement le fait de personnes comme vous et moi qui vont supprimer manuellement des comptes, mm-hmm. mais ça se fait essentiellement par le biais d'outils automatisés, donc avec un recours assez massif à l'intelligence artificielle, tout cela pour détecter des comportements anormaux.
Alors justement, pour répondre précisément à la question d'Hassan, qu'est-ce qu'il y a eu quels sont les comportements anormaux constatés par Facebook et Twitter pour supprimer ces comptes et se dire, derrière ces comptes, il y a la Russie?
Alors, en fait, ces comportements anormaux, ce que Facebook et Twitter appellent anormaux, ça va être de repérer des comptes automatisés, ce qu'on appelle des bots, notamment sur Twitter, et qui peuvent publier des centaines, voire des milliers parfois de messages par jour. Donc ça va déclencher un petit peu la sonnette d'alarme chez ces acteurs qui iront creuser ensuite ce type de publication et les relais ensuite qui seront identifiés entre ces multiples comptes. Et là, encore une fois, Facebook et Twitter fonctionnent beaucoup avec des outils automatisés qui sont censés parvenir, hein, parce que je dis censés, pas parce que c'est pas encore tout à fait convaincant comme type de solution, mais qui sont censés justement parvenir à des détections de manipulation de l'information.
Et là, pour le coup, il s'agissait de manipuler qui?
Il s'agissait essentiellement de manipuler, comme en 2016, des électeurs qui sont portés vers un vote démocrate, donc qui sont réunis, comme on le sait, derrière la candidature de Joe Biden à l'élection qui aura lieu début novembre. Donc c'était déjà le cas en 2016 avec la candidature d'Hillary Clinton. Et aujourd'hui, dans les tentatives qui ont été détectées la semaine dernière, différents sujets qui font polémique, la violence policière, les sujets liés à l'immigration, etc., sont ceux qui remontent le plus, hein, dans ces relais identifiés et affiliés à la Russie. Donc voilà, c'est encore une fois une tentative de semer la confusion et de jeter un peu d'huile sur le feu.
Et il y en aura certainement d'autres, des tentatives russes d'ici la fin de la campagne électorale. Merci infiniment, Julien Ossetti, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur l'antenne de RFI.